Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-Christophe Givor.
Bonjour Émilie Michel.
Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de la rédaction. Évidemment, nous allons parler de cinéma. Sur une vingtaine de films présentés aux rencontres du cinéma de Gérardmer, qui se termine aujourd'hui, il est bien évident que nous n'allons pas tous les évoquer. C'est donc une sélection de nos coups de cœur dont il s'agit dans ce mag. Et nous avons choisi de mettre en lumière des films de femmes romantiques et sensibles.
En effet, Émilie, une question se pose, que se passe-t-il dans le cinéma français? À l'instar des films présentés dans ces 15e rencontres du cinéma, les réalisations se conjuguent de plus en plus au féminin et elles explorent les sentiments sans phare et sans rougir.
Oui, et Michel Blanc laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle vague. Dans le second film de la réalisatrice Jennifer De Volder, il interprète Ellie, père en quête de lui-même et des autres pour mieux trouver sa fille.
Et soudain, tout le monde me manque. C'est le titre de ce film de Jennifer De Volder. Une véritable radiographie des sentiments. Un petit bijou d'esthétique, épuré, léger et profond.
Et pour entrer en matière, rencontre avec le trio de ce film, Jennifer De Volder, Mélanie Laurent et Michel Blanc. C'était jeudi.
Votre film nous a scotché.
Flagorneur, va.
C'est tellement agréable à entendre qu'on voudrait pas que ça s'abîme après.
N'en parlons pas alors.
Après l'avoir vu, j'ai trouvé que c'était un peu une radiographie des sentiments, ça vous va comme, comme définition?
Ah très bien, d'ailleurs je vais le reprendre ça pour la... C'est une radiographie des
c'est
sentiments.
C'est pas qui l'aurait trouvé celle-là, jalouse.
Après on va oublier. Ah, c'est très bien, c'est très bien.
Moi j'ai fait le premier film de Jennifer Jusqu'à toi. Et il y a un truc de premier film, c'est que le premier film on est... C'est que je trouve ça difficile d'aller très loin dans les sentiments, parce qu'on a toujours un peu... Et je trouve que souvent, enfin moi j'en sors, je viens de faire... Hein, et je trouve qu'on a une tendance à vouloir faire très peu de plans. Parce qu'on se la pète un peu en disant c'est mon premier film, je l'ai tellement pensé que ça tient en un plan séquence. Je trouve qu'on prend un plaisir à assumer des choses. Je me mêle de ce qui ne me va pas, mais je sais qu'on avait reproché à Jusqu'à toi d'être un peu lent. Et j'ai trouvé que... Et soudain, on était très découpés, quoi. J'ai un souvenir de séquence où on faisait un dîner et puis tout d'un coup, elle allait dans tous les angles. Donc c'est pour ça que ça me
mais
fait réagir.
Mais toujours encore.
Oui, mais parce que je... Et c'est vrai que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, c'est vrai qu'en voyant le film, je le ressens pas. J'ai pas l'impression qu'on est dans un truc clipesque de mise en scène qui va chercher absolument les choses. Et que je trouve ça intéressant qu'on se pose la question de... Parce que je trouve que la maturité entre le premier et le deuxième, il est carrément hallucinant, quoi. C'est-à-dire que je trouvais que le premier, il était décalé, très anglais, mais qu'il y a des endroits où on aurait pu aller plus loin dans les sentiments, et que celui-là, il scotche.
Ah, je l'avais
dit. En tout
cas,
il fait un vrai effet aux gens, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, entre le premier et le deuxième, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est allée, elle a pris sa caméra, elle est allée dans nos yeux et à l'intérieur de nous, et elle nous a... complètement montré, j'étais très étonnée, je le voyais au scénar, mais je pensais pas qu'elle le montrerait comme ça aussi clairement. Donc je trouve ça drôle en ayant le sentiment qu'on a beaucoup découpé sur place, qu'au final c'est un peu épuré, et que tout ça soit fait en un film, en une étape, quoi. Je me tais.
Michel, alors un rôle épuré, pas épuré, comment vous l'avez ressenti?
Ah, je sais pas trop m'analyser, parce que j'aime bien moi être manipulé par les metteurs en scène, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la sensation d'être en face de quelqu'un qui a un univers, qui a écrit quelque chose, qui sert de point de départ à l'expression de cet univers, et qui vous embarque dedans. Surtout pas aux metteurs en scène qui vous disent fais-le comment tu le sens, fais-le comme ça. Parce que ça, je m'en fous, je sais le faire, je peux le faire tout seul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui m'embarque dans un univers qui n'est pas le mien. Et Ellie, c'est... vraiment pas beaucoup moi, quand même, ouais, honnêtement.
Non, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Hein, et quand Justine, pas non plus du
et,
tout.
Et toi non plus. Et quand je vois le résultat, ce fameux Ellie, je me dis, elle m'a demandé ça, sur le coup, je me suis dit, elle est gonflée, mais je lui fais. Mais bon, parce que ça m'intéresse, c'est ça qui m'amuse. Et à l'arrivée, eh bien, il y a un Ellie qui existe parce qu'elle m'a demandé ça, parce qu'elle m'a demandé ces choses-là. Et ça, je trouve ça passionnant. Enfin, en fait, c'est même la seule chose qui m'intéresse dans ce métier. En tant qu'acteur, c'est d'être embarqué comme ça. Ça m'arrive, hélas, trop peu souvent. Là, ça m'est arrivé quelquefois, ça m'est arrivé sur le film de Téchiné, Les Témoins, parce que il m'embarquait dans des trucs, il me demandait des choses et je me disais, mais pourquoi, t'es sûr qu'il dit ça pour comme ça, il le dit comme ça, il est, mais c'est pas de l'humour ou c'est de l'humour, c'est machin. Et il me disait, non, fais-le comme ça, fais-le sérieux, fais-le. Et à l'arrivée, je me suis dit, mais putain, mais il avait tout, enfin oui, il l'avait dans la tête son personnage, et pas moi. Et là, j'ai eu la même sensation de me dire, ah, je suis pas complètement abruti, il y a des moments où je comprenais ce que je disais, mais...
Non, c'est pas rendu compte, hein.
Mais simplement, j'ai eu l'impression d'être embarqué vers un Élie que j'aurais pas su construire, moi, du tout, et qui est un Élie qui existe vraiment, en dehors de moi. Et ça me plaît beaucoup. Ce que j'aimerais, c'est que les gens le ressentent comme ça, mais ça me plaît beaucoup. Mais c'est-à-dire que je crois surtout qu'il devient ce qu'il est. Oui. Enfin, soit vouloir pas utiliser des grandes phrases. Hein. C'est que le Élie de la fin, c'est le vrai Élie. C'est celui, je ne raconterai pas, mais c'est celui, on comprend pourquoi, on découvre certaines choses hein, vers la fin du film. C'est parce qu'il a toujours été comme ça. Sauf qu'à la fin... Il accepte, il lâche un peu prise et il accepte d'être lui-même. Alors qu'avant, pour des raisons, alors là, il faudrait peut-être fouiller, j'en sais rien, mais peut-être le fait d'avoir eu à abandonner ce qui lui plaisait, qui était la carrière artistique, qui était le jazz, qui était de jouer de la musique, et d'un seul coup de se dire, il faut que je revienne à une réalité qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais bon, après tout, c'est comme ça, et de devenir marchand de tissu en gros, il le fait correctement, mais d'un seul coup, il se renferme et le vrai Élie, on le retrouve à la fin, mais il était là au début, hein, c'est celui qui jouait du jazz. Et en fait, à la fin, il joue du jazz avec sa famille, mais c'est vraiment sur la dernière partie. Mais il n'était pas capable de le faire avant. Et il n'a jamais été capable de le faire avec sa fille. Et quand sa fille découvre qu'en fait, il y avait ça derrière, évidemment, c'est mon Dieu, il est jamais trop tard. Et en même temps, c'est con que ça n'arrive pas plus tôt.
Mille fois pardon à Michel Blanc que nous interrompons momentanément. Il est hors de question, bien sûr, que vous en sachiez plus. Pas question de déflorer ce film.
Non, mais ce qui lui arrive est quand même, enfin, en très peu de temps, ce qui arrive à Élie est quelque chose, encore une fois, on assiste à un moment où des années de vie... d'habitude, d'un certain cynisme dans son humour, un cynisme ou pas cynisme, d'ailleurs c'est pas du cynisme, parce
non,
qu'il dit simplement ce qu'il pense.
Cynique, oui.
Il dit simplement ce qu'il pense, puis après il se dit, ah oui c'est vrai que ça va choquer ça. Alors il dit, oh non je déconne, mais pas du tout, il déconne pas, c'était vrai, il le pensait. Donc voilà, et puis il y a un moment où quelque chose se produit qui fait que il se rend compte que c'est pas la vie ça. Que c'était pas la sienne non plus, et que je veux pas raconter l'histoire.
Bien, bonne idée.
Il y a vraiment une jolie évolution et toujours émouvante et toujours logique et toujours juste. C'est-à-dire qu'on se dit pas, ah oh, bah tiens, bah oui, ah oh, bah oui, c'est bizarre qu'il fasse ça. Non, on se dit, ah bah, je comprends. C'est-à-dire que plus on avance, enfin moi je trouve, plus on avance dans le film, plus on comprend les personnages.
Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis un peu inspirée en l'écrivant de séries télévisées, parce que je trouve que dans les séries télévisées, les personnages marchent mieux qu'au cinéma. C'est-à-dire parce qu'on rajoute toujours des couches, et à la fin, au 18e épisode, on a l'impression qu'ils sont très riches, qu'ils sont proches de nous, et que c'est nos amis, que c'est notre famille. Et moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé les séries en me disant, bah, ces gens-là, j'ai l'impression de les connaître. Et parfois, quand on me dit, bah, en fait, je connais pas... C'est vrai que je connais pas Rachel dans Friends, mais moi, j'ai l'impression de la connaître. C'est bizarre, j'ai envie de l'appeler, des fois. Et j'avais envie qu'on ait...
C'est son numéro, hein, si tu veux.
Ah, cool. Qu'on ait ce rapport-là à ces personnages-là, que petit à petit, on en découvre toujours un peu plus et on soit toujours plus proche d'eux. C'est bizarre, j'ai pas son numéro alors que j'étais sûre de l'avoir.
Il y a un autre film qui est projeté ici aux Rencontres.
Bon, on va y aller.
C'est choquant, c'est... ça, alors là, hein, je suis choquée.
Alors, c'est un baiser papillon. « quand vous êtes arrivé sur scène tout à l'heure pour déprésenter le film, pour rencontrer le public, vous avez remercié ce public de ne pas avoir pris la fuite. Vous craignez vraiment qu'il fuit ?
On ne sait pas en fait si les gens vont être émus par le film. Donc j'étais contente qu'il reste. On n'est jamais sûr d'être aimé, on n'est jamais sûr.
Karine Silla Pérez, la réalisatrice de Un baiser papillon, son premier film.
Réaction de la salle avec des applaudissements et puis un silence juste après la dernière image. L'émotion était là.
Oui, c'est une salle qui m'a émue parce que j'ai senti quelque chose en fait. Je suis un peu voyant. Non, mais j'ai ressenti quelque chose qui m'a de sincère.
Un premier film choral de très nombreux personnages qui sont loin d'être de simples silhouettes. Une écriture complexe.
J'aime pas la facilité, moi. J'aime vraiment, je suis très grande travailleuse. J'ai eu la malchance et peut-être la chance au final d'être quelqu'un qui est toujours dû énormément travailler depuis tout le temps, depuis que je suis petite. Je dois beaucoup travailler pour arriver à des résultats. Voilà. Et donc j'ai pris, j'ai très très jeune, comme j'ai compris ça, puis j'aime les tâches difficiles. Et puis en même temps, pour moi, il y avait une logique parce que je suis moitié sénégalaise. Je suis quelqu'un qui a toujours été entouré de monde. Qui a une grande famille, qui aime avoir beaucoup de gens chez soi, j'aime aller au marché, j'aime aller au supermarché, j'aime faire la queue, j'aime aller dans le bus, dans le métro, j'aime les gens, moi, j'aime être coincée comme ça dans les marchés, j'aime écouter les conversations. Pour moi, la vie, c'est tous ces gens qui nous frôlent. On frôle combien de gens dans une journée? Donc comment raconter la vie sans voir le poissonnier qui lui parle de sa femme, parce que sans parler de l'homme dans le café, où vous allez boire votre café, que vous rencontrez, sans voir l'infirmière qui vous soigne, sans voir toutes ces vies. C'était impossible que je raconte un bout de vie, que je fasse un film sur... En plus, moi, je suis partie de plusieurs histoires vraies, et notamment l'histoire principale. J'ai accompagné comme ça, moi, une amie qui traversait cette épreuve, et j'ai rencontré les infirmiers et les gens dans le couloir, et puis les gens le patron du café qui le matin vous donne ce signe encourageant, qui vous traîne comme ça dans la journée. Puis des fois il y a des gens qui vous portent et c'est votre famille, et puis des fois c'est des gens qu'on rencontre une heure, une demi-heure, et voilà. Et j'avais envie de... Pour moi, la vie, c'est ça, c'est des gens.
La construction de ce film m'a paru extrêmement complexe, alors, mais pourtant ça coule de source à l'écran. Alors, comment avez-vous créé cet enchevêtrement très subtil où les choses se rejoignent, s'entrecroisent?
Écoutez, je vous l'avoue, en fait, c'est très compliqué. C'est d'abord, en plus, j'écrivais beaucoup à la main. Et à un moment donné, une fois, j'étais dans mon salon, il était 3h du matin, et j'avais plein de feuilles comme ça au sol. Et je me disais, voilà, si je pars de là et que je vais là. Et donc j'essayais de construire ce scénario parce qu'en même temps, moi, je suis quelqu'un de très rigoureux. J'aime la danse, j'aime les choses vraiment qui se tiennent avec une structure. Donc en plus, je ne voulais même pas laisser aller. Donc il y a vraiment une colonne vertébrale forte dans le film. En fait, comme je me suis concentrée sur l'essentiel, je suis partie d'un premier point. J'ai mis tous les personnages dans une situation d'urgence. L'histoire s'est racontée d'elle-même. Et puis j'ai supprimé 25 pages à la dernière version, tout ce qui était inutile, tout ce qui s'échappait du tronc. Voilà.
Valeria Golino, Elsa Zilberstein, Vincent Pérez et Cécile de France, notamment, un casting prestigieux pour un premier film. On croirait presque que ces acteurs se sont précipités pour participer à ce film.
Ils ne se sont pas pressés pour être dans mon film, ils se sont pressés pour raconter cette histoire. J'ai senti surtout que les gens avaient été émus par l'histoire. Et vraiment, j'étais très flattée. Par exemple, Cécile de France, elle a fait mon film entre le Clint Eastwood et les Frères d'Ardennes. Elle refuse beaucoup de films, Cécile. Et elle a accepté le film parce qu'elle a été touchée par cette histoire. Et en fait, et c'est ce qui s'est passé avec les personnages dans le film, c'est ce qui s'est passé avec les techniciens. Ça m'a donné espoir dans l'humanité parce que j'ai l'impression d'avoir écrit un film humain. Et donc d'avoir tous ces artistes qui me disent oui, 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 j'étais vraiment, j'étais pleine d'espoir. Et surtout, ils m'ont dit oui et personne ne m'a lâché. Alors que le film a changé de date 4 fois et puis ils sont tous restés là au rendez-vous. Ils avaient vraiment cette nécessité de raconter cette histoire, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée.
Ma dernière question ira au titre du film, Baiser papillon, pourquoi?
Alors pour moi, parce que déjà le papillon, c'est éphémère comme la vie. C'est fragile, ça s'envole, en même temps ça se pose. Il y a les couleurs du papillon. Moi, j'adore la couleur. J'adore la couleur dans la nature. J'adore la couleur. Donc, il y en a plein dans le film. Il y a beaucoup de couleurs. C'est très coloré. Il y a les regards qui, pour moi, sont comme le papillon, qui vont d'une fleur à l'autre, comme ça, qui vont d'une personne à l'autre. Et il y a vraiment, pour moi, cette notion, pour moi, d'à quel point on sait à quel point la vie est fragile, à quel point on vit. C'est tellement court, notre instant sur Terre. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'impression de ressembler à un papillon, en fait.
Dans le baiser papillon, il y a aussi un peu un effet papillon quelque part dans le déroulement de l'histoire.
Il y a l'effet papillon, il y a l'effet baiser parce qu'il y a l'amour, il y a tout le monde qui s'embrasse. Puis oui, effectivement, il y a l'effet comme ça de l'effet papillon.
Et après l'effet papillon, l'effet chat dans un instant sur Côte TéléFM.
Like to tell you just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. My hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream. When I look right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. And I know, oh, 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 that it's not a dream.
Magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Comme beaucoup de gamins, j'ai appris à lire dans des bandes dessinées.
Joël Sfar.
Donc pour moi, c'était assez indissociable d'écrire et de dessiner. Et je pense pas que j'étais un gosse qui dessinait mieux que les autres, mais par contre, je dessinais tout le temps. Mon papa a été assez gentil de me laisser faire. Et bon, au début, c'était dans des BD un peu underground, un peu machin. Puis après, ça s'est mis à marcher. Mais moi, si je dessine pas plusieurs heures par jour, je suis pas heureux. Donc je continue à faire ça tout le temps. Et après, moi, j'ai toujours eu une passion pour le cinéma, mais comme spectateur, je rêvais pas du tout d'être réalisateur de cinéma. C'est parce que ma copine Marjane a fait Persepolis que des gens sont venus me chercher, et du coup je savais pas si je m'en sentais capable ou pas, mais ça me faisait envie. Et quand j'ai vu les gens qui étaient prêts à me faire confiance, quand j'ai vu que les projets étaient chouettes, on a essayé quoi. Et moi, mon rêve dans la vie, ce serait de continuer à faire les deux, c'est-à-dire de continuer à alterner des bandes dessinées et des films, parce que une bande dessinée, on est seul dans son coin, on creuse, et un film, on socialise, et moi, ça me fait du bien de socialiser.
Cette alternance de votre rêve de faire les deux là, dans l'état actuel des choses, ça vous semble tout à fait envie. envisageable.
Oui, c'est formidable. Et puis je dois dire que de manière très concrète, les trois Césars du Gainsbourg ont énormément aidé. Parce que comme le cinéma est un milieu peut-être un peu futile, je ne sais pas, mais quand une distinction comme ça arrive, dès le lendemain, des choses se bouclent. C'est-à-dire que le lendemain des Césars, on a vendu Gainsbourg chez un très bon distributeur aux États-Unis. Et quelques jours après, j'étais pratiquement parti sur mes prochains films. Donc je crois qu'on ne se rend pas compte quand on le voit à la télé à quel point les Césars, c'est une réunion de gens qui ont beaucoup travaillé dans l'année passée et qui rêvent de continuer à travailler dans l'année d'après. Parce qu'on les voit en robe, avec du champagne et tout. Mais l'enjeu de ça, pour tous, c'est est-ce qu'on va continuer à faire des films finalement.
Le Gainsbourg, justement, ce Gainsbourg-là, comment il s'est formé dans votre esprit? Vous parlez d'art, de religion? Il y a votre graphisme qui intervient, il y a une interprétation extraordinaire. Comment ça se mêle tout ça? Comment l'avez-vous imaginé?
C'est, j'allais dire que c'est un film de puceau, mais il y a beaucoup ça. C'est ma fascination pour les jolies filles, pour Paris, pour les gens qui s'embrassent au bord de la Seine. Et j'ai essayé de ne pas faire semblant que je m'y connais en cinéma. J'ai essayé de faire comme si, avec mes fascinations de gamin de 17 ans qui allait au ciné-club toutes les semaines pour voir Chantons sous la pluie ou pour voir Un Américain à Paris. Et j'ai essayé aussi de poser, peut-être de manière assez prétentieuse, la question du héros français aujourd'hui au cinéma. C'est-à-dire, pourquoi quand on voyage en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, nos amis étrangers se souviennent uniquement de Delon, de Belmondo, ou d'Un Américain à Paris, ou même d'Amélie Poulain, mais au-delà, ils ne nous connaissent pas. Et j'ai voulu repartir sur des clichés sur la France, mais je voudrais construire là-dessus. Et peut-être que c'est pas loin de ce que fait Woody Allen quand il fait Midnight in Paris, où tout le monde dit I love you, c'est-à-dire qu'il y a une envie d'interroger Le symbolisme français en se disant qu'on va construire à partir de ça. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des bandes dessinées beaucoup traduites dans le monde, donc je voudrais qu'il en soit pareil pour les films. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas satisfait si à l'étranger, on ne peut pas voir mon travail. Gainsbourg, j'ai de la chance, a très très bien voyagé, et j'aimerais continuer comme ça, parce que prendre en compte le public étranger, c'est aussi prendre en compte qui on est, vu de l'extérieur. Et on oublie de dire, peut-être parce que les gens ne sont pas très fiers de l'annoncer, que Gainsbourg, c'est beaucoup un film américain. C'est-à-dire que si j'avais pas eu Universal, j'aurais pas bouclé le budget de ce film-là. Donc des fois, les choses les plus françaises, les plus bizarres, les plus expérimentales, vont plaire à un public étranger. Après, peut-être qu'il y a un aspect très gamin dans mon travail qui se construit avant tout sur des images, et peut-être que ça aide. C'est-à-dire, par exemple, Le Chat du Rabbin, où ça parle tout le long, se dire, mais si on coupe le son, il y a un chat qui saute, qui court, qui fait des câlins à sa maîtresse. C'est peut-être pour ça que des tout petits gamins, qui ne sont pas du tout dans le public visé par ce truc, se trouvent à l'apprécier parce qu'ils suivent le chat, finalement. Ça te parle de bon Dieu tout le long, donc c'est hyper chiant, sauf que le chat n'en a rien à foutre, il n'est pas croyant et il pense qu'à sa maîtresse. Donc ça parle de catéchisme, mais c'est pas du catéchisme, puisque le chat ne veut pas apprendre. Lui, et c'est tout le truc, c'est de. Je veux pas que les religieux soient à la porte de ce film, donc j'aime bien que. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, religieux, partent pas au milieu en hurlant, qui suivent le truc, et qu'en même temps, il y a un message qui dit « moi je voudrais qu'on s'aime tous, mais c'est pas une raison de pas se critiquer, c'est pas une raison, la manière qu'a le chat d'aimer tout le monde, c'est de dire vous êtes tous aussi cons les uns que les autres. » Donc ça j'aime bien, rester toujours dans le pays de Voltaire, de Brassens, quand Brassens dit « je m'en prends aux uniformes, mais pas aux hommes qu'il y a dedans, je me sens assez cousin de ça. » Donc voilà, et puis là, pour quitter un peu le terrain de la philosophie, moi je trouve que le degré de haine monte très fort en France en ce moment, et moi je veux pas faire de la haute pensée, je veux juste faire baisser le degré de la haine.
Le rabbin s'appelle Sfar, il y a le chat du rabbin, bien, et Gainsbourg, dans sa vie héroïque, a son Gainsbar, ce dessin. Vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus, psychanalysons un peu.
Non, mais ça c'est même, c'est vieux comme Platon et Socrate. C'est Socrate qui raconte qu'on a chacun notre daimon, et quand il éternue du côté gauche c'est oui, du côté droit c'est non. Donc on a cette personne. Et moi je crois beaucoup à cette histoire de totem, c'est-à-dire qu'on est toujours en dialogue, même avec soi-même. C'est-à-dire même tout seul, il y a un truc chez les juifs que je trouve très joli symboliquement, on dit aux gens, quand on les rencontre, shalom aleichem, ça veut dire bonjour à vous deux. Alors que le mec est seul, parce qu'on dit mais non, il n'est pas seul, il y a son ange avec lui. Et c'est une manière de dire, et les Grecs disent pareil, on est toujours dans un espace dialectique. C'est-à-dire si tant est qu'on soit un peu supérieur au chat et au chien, c'est parce que dans notre tête ça dialogue, et même seul on n'est pas seul. Donc cette idée d'avoir un personnage qui est toujours en train de parler à son tataillé, là, ça c'est assez. Ça reste chez moi.
Miaou.
Le chat du rabbin fait vraiment comme ça dans le film.
Miaou.
Quand on lui parle, il répond.
Miaou.
Ah, je vois. Merci, Émilie.
Miaou.
Et surtout, un immense merci à Johan Sfar.
Miaou.
Et voilà qui nous ramène sur le même divan en compagnie du trio Jennifer Devolder, Mélanie Laurent et Michel Blanc. Michel Blanc, dont le personnage finit par se rencontrer lui-même, rappelez-vous. Que se passe-t-il dans ce cinéma français, à l'exemple des rencontres du cinéma de Gérard May, où près de 8 films sont réalisés par des femmes, des œuvres qui n'ont pas peur du romantisme et de l'exploration du sentiment. Michel Blanc.
Miaou.
J'ai la plus grande méfiance envers les gens qui pratiquent le film volontairement élitiste, c'est-à-dire le côté... Soyons attention, il ne faudrait surtout pas plaire à trop de gens parce que ceci, cela. En France, on a l'impression, depuis cette putain de nouvelle vague, passez-moi l'expression, qu'on a d'un seul coup, c'est comme le débat sur la laïcité, quoi. Hein ? On en parlait tout à l'heure. D'un seul coup, il y a des camps. Il y a des camps. Il y a la nouvelle vague. Il y a des gens qui vous disent faut pas faire des. Par exemple, j'ai un sujet de conversation qui se passe toujours très bien parce que j'adore André Téchiné, mais sur ce qu'il appelle les dialogues ciselés. Moyennant quoi, lui peut vous faire dire un rapport de police. Alors, j'essaie de lui expliquer que dans la vie, les gens ne parlent pas comme les rapports de police. Ils ne parlent pas non plus comme Audiard. Donc on peut, voilà, que le vérisme, le s'approcher de la vérité, de la spontanéité, de l'authenticité, n'exclut pas un dialogue écrit. C'est simplement le talent qui fait que ça n'est pas bien.
Et je crois, non mais je crois aussi qu'il y a une autre nouvelle vague de gens honnêtes. Je trouve que c'est normal que Géraldine Nakache, avec tout ce qui brille, fasse 1 million d'entrées. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une nouvelle vague.
1 million 4.
1 million 4, presque 1 million 5. Moi, ça m'étonne pas que Danny Boone, le Bienvenue chez les Ch'tis, ça fasse ça. Parce qu'à un moment donné, le mec, il s'est pas
si
dit,
ça, si ça
je vais l'écrire. Non, mais je vais l'écrire en faisant 20 millions d'entrées, je vais prendre les gens pour des cons et je vais écrire là-dessus. Après, il a fait 20 millions, c'est juste énorme. Et c'est pas normal de faire 20 millions. Mais ce que je veux dire, c'est que il l'a pas. Moi, je trouve que ça fait partie de ces gens qui font pas les films pour avoir le public.
Non mais en résumant, je pense que ce que veulent dire Michel et Mélanie, c'est qu'il y a en tout cas peut-être un goût nouveau, enfin quelque chose qui se crée sur des comédies plus profondes, enfin voilà, plus profondes. Plus,
non mais je pense qu'elle a raison, plus... il y a une nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il y a une rupture. Il y a une rupture avec à la fois avec ce qu'a été la nouvelle vague, avec ce qu'elle a eu de castrateur. Parce que la nouvelle vague a été terrible, parce qu'elle a foutu au chômage des gens qui avaient un talent absolument extraordinaire, des dialoguistes comme Jean Orange, des Duvivier. Ensuite, il y a eu une espèce de réflexe. Il y a eu deux camps qui se tiraient dessus. Après la nouvelle vague, il y a eu d'un seul coup le cinéma populaire, dont on disait, ah ouais, mais ils disent pas les gens pour des cons, ils écrivent pour des cons, et puis le cinéma intellectuel, où effectivement personne n'allait, ou très peu, mais qui était très intelligent. Et or, là, on assiste à quelque chose qui, moi, me rassure énormément, ce sont des choses intelligentes, écrites avec subtilité, avec un nouveau regard sur la vie, qui sont drôles, et qui ressemblent pas, ni à Mon cul sur la commode, ni à Ma nuit chez Maude. Moi j'ai bien aimé les films de Romère à l'époque, etc. Il y a quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est vrai qu'il y a, dans ces choses vraiment nouvelles, c'est très chiant parce que et j'ai 58 ans et de deux je suis un homme, mais c'est souvent des jeunes femmes qui le font. Il faut bien le reconnaître.
Voilà. Exception pour Philippe Claudel.
Je veux bien. Je vous rends le micro.
En fait c'est Camille Claudel qui...
Merci à tous. Bonsoir.
Vraiment beaucoup, depuis trop longtemps.
Moi je n'ai que 5 heures de route à faire.
Et...
Moi je veux pas qu'on m'empêche.
Merci.
Quand je parle, je parle.
Il faut
pas me
déclencher. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Bon voyage.
Voilà. C'est avec un peu de tristesse que nous les avons quittés. Soudain, tout le monde nous a manqué. Et sachez qu'Émilie l'a eu son autographe. Un grand merci donc à Michel Blanc, à Jennifer Devolder, à Mélanie Laurent, mais aussi à Johan Sfar. Ainsi qu'à ceux que vous n'avez pas entendus dans ce magazine, comme Céline Sciamac, dont je ne saurais que trop vous recommander le visionnage de son très excellent Tomboy. Un grand merci aux équipes de films, un grand merci aussi et surtout à l'organisation de ces rencontres du cinéma, et en particulier à Denis Blum, l'office de tourisme de Gérard May, qui en est également le co-organisateur, Bruno Poisat, Valérie Lemoine et Aurélie Covigny. Enfin, une mention spéciale, bien sûr, pour Émilie Michel, qui est venue renforcer l'équipe de la rédaction de Cocktail FM, une fois de plus. Dans un instant, d'autres informations internationales et nationales. Celles-ci, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma.